n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Les billets pour les JO 2024 à Paris sont en ce moment en vente. Dans ce magazine, nous allons parler de ceux qui passent souvent en second plan, les Jeux paralympiques.
Interview avec Ludivine Munoz, native de l'Ain, ancienne nageuse handisport, médaillée olympique. Elle participe à l'organisation de ces Jeux 2024.
Nous écouterons aussi un reportage réalisé par des enfants de l'école du Peloux. Ils ont découvert une discipline du handisport.
Et tout de suite, c'est votre actu en bref.
Bourque en bref.
Emmaüs Bourque-Servas lance un appel à soutien.
La communauté se mobilise pour l'un de ses compagnons, Baïla. Ils appellent toutes les personnes attachées aux droits humains à signer cet appel. Baïla a reçu une OQTF, une obligation à quitter le territoire français et il attend toujours sa carte de séjour. Plus de 200 personnes l'ont signé et ils ont encore besoin de vous pour atteindre les 500 signatures. L'appel est disponible sur change.org et s'appelle « Mes amis au secours ».
La coopérative jeunesse de service est de retour cet été.
Et c'est déjà sa 5e édition. Elle aura lieu du 3 juillet au 25 août sur l'agglomération du Grand Bourg. Elle rassemblera 15 jeunes de 16 à 18 ans autour d'une entreprise coopérative éphémère. Leur mission, proposer des activités aux professionnels et aux particuliers. L'occasion pour eux de découvrir le monde de l'entrepreneuriat et de l'économie sociale et solidaire. Retrouvez toutes les infos sur le site dédié www.cjs-bourg.fr.
Pour refermer cette actu en bref, à vos agendas.
Le week-end du 3 et 4 juin, c'est la 3e édition du Festival des Mauvaises Herbes à Journan. Au programme de nombreuses activités, un atelier pour fabriquer des éponges en tissu recyclé, un documentaire sur les femmes migrantes et des artistes locaux comme Rimé. Retrouvez le programme et toutes les informations sur la page Facebook de l'association Un Pas de Côté.
Et toujours pour rester solidaire.
Le dimanche 4 juin à Bourg-en-Bresse, le Secours Populaire de l'Ain organise une braderie d'articles dégriffés. C'est de 10h à 18h au marché couvert.
L'invité de Radio B.
Inès, vous avez échangé avec Ludivine Munoz, multiple médaillée aux Jeux paralympiques.
Née dans l'Ain à Nantua, Ludivine Munoz participe à l'organisation des Jeux de Paris 2024. Amputée du bras et de la jambe droite, elle se consacre à la natation dès ses 11 ans. L'ancienne athlète a participé à 3 Jeux paralympiques entre 1996 et 2004, Atlanta, Sydney et Athènes. Elle a ramené 12 médailles, dont 3 en or, notamment pour le 50 mètres papillon et le 50 mètres nage libre. Nous l'avons eu par téléphone.
Pour ces disciplines, est-ce que les personnes ont le même handicap? Comment ça se passe?
En paranatation, c'est un peu équivalent aussi à le paraathlétisme. On est classé dans des catégories de handicap où finalement, en parallèle avec le poids qu'on pourrait retrouver au judo, en fonction de notre capacité physique et de nos muscles fonctionnels ou de nos membres présents, eh ben, on nous regroupe dans des catégories qui regroupent tel ou tel point. Donc vous allez par exemple de la catégorie 1 à la catégorie 10. La catégorie 10, vous avez le handicap le plus faible. Et moi, j'étais en catégorie S6, puisque j'ai 2 membres fonctionnels et également tout mon gainage abdominal et mes dorsaux.
Vous pouvez nous raconter peut-être un souvenir particulier ou plusieurs souvenirs particuliers de Jeux paralympiques que vous avez vécu.
Alors les deux grands magiques souvenirs que j'ai en tête, forcément un bon et un mauvais. Alors le mauvais qui m'a, on va dire, construit pour la suite de mes compétitions, c'est ma disqualification aux 50 mètres papillon avec une médaille d'or record du monde. Alors je n'ai jamais eu la médaille puisque j'ai été disqualifiée en sortant de l'eau. Or je venais forcément pour cette compète vraiment dans l'objectif de ramener une médaille sur 50 mètres papillon. Et mon dernier mouvement, en l'état de la réglementation de 1996, n'était pas assez parallèle. Et donc je suis disqualifiée. et tout le monde autour de moi s'effondre. C'est-à-dire que je ne sais plus ce que je fais là et je ne sais même pas comment je vais me redresser. Et force du collectif qui était autour de moi, de ce qu'on peut vivre dans les Jeux paralympiques avec l'encadrement qui existe. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment d'être sortie de la piscine ce jour-là totalement effondrée. Et à part pleurer, je pense que je ne savais pas faire grand-chose. Je marchais tout droit dans le village paralympique. Et j'ai eu ce jour-là le sentiment que tout le monde me soutenait indirectement par un regard, par une main tendue, par du respect. Je me suis vraiment sentie soutenue en tant qu'athlète, en tant qu'athlète qui échoue, parce que finalement on ne raconte pas son histoire à tous les passants. Mais voilà, soutenue dans ma difficulté. Et je me suis redressée en 24 heures, puisque le lendemain j'avais la chance de pas nager. Et ensuite j'ai réenchaîné toutes mes autres disciplines avec le 100 mètres nage libre, 100 mètres d'eau et 50 mètres nage libre, où j'ai pu ramener la médaille d'or sur ma dernière course. Donc la mémoire que j'en ai, c'est la résilience ou la capacité à être soutenue et à rebondir en si peu de temps. Donc ça, c'était vraiment un des moments plus forts de ma carrière. Et forcément, le deuxième, le plus beau, c'est ma médaille d'or aux 50 mètres papillon à Athènes 2004. C'est ma dernière course. J'ai décidé d'arrêter ma carrière parce que j'avais envie de passer à autre chose et que j'avais pas mal de douleurs physiques. Et j'arrive à ramener la plus belle des médailles d'or avec vraiment la Marseillaise qui avait pour moi le plus grand impact parce qu'elle représentait toute une carrière de sportif de haut niveau et vraiment... Je pense que c'est la première fois de sa vie où on peut se projeter avec un cœur autant plein de bonheur, comme s'il allait exploser. Autant ça peut être dur quand il est triste, mais ça peut aussi être tellement magique quand il est plein d'amour, plein de bonheur et plein de joie.
Et donc pourquoi aujourd'hui vous avez continué votre engagement dans les Jeux paralympiques, donc plutôt en tant que personnalité pour les promouvoir ?
Alors, j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai toujours eu la chance de m'investir alors à ma petite manière, puisque j'avais un travail et je suis devenue maman et j'ai franchi toutes les étapes de la vie comme tout le monde. Mais en parallèle, j'ai participé à l'ensemble des Jeux paralympiques depuis 96, sous différentes formes, avec différentes façons d'accompagner le mouvement paralympique. Et c'est arrivé comme une révélation pour moi quand Paris 2024 a gagné la candidature dans notre pays, de dire que finalement, d'avoir envie pas forcément de participer, alors quelle que soit la façon, ça aurait pu être dans le programme de volontaire, mais quand on envoie un CV, voilà, on réfléchit, on dit que finalement on peut aussi contribuer en tant que partie à l'intérieur de ce comité d'organisation, c'est ce que j'ai fait, et c'est pour cette raison que je me suis fait connaître pour accompagner ce projet, et finalement on a trouvé du coup un projet qui pouvait convenir à tout le monde.
Et donc, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les Jeux paralympiques sont assez connus du grand public ?
Là, c'est l'ancien athlète qui vous parle. On trouve toujours qu'en tant qu'athlète, on n'est jamais assez connu. Le mouvement n'est jamais assez visible comme des sports qui seraient moins visibles. Je pense au curling bâton ou à d'autres disciplines qui sont moins regardées. On a toujours envie de plus faire connaître parce qu'on a envie de partager sa passion. Et aujourd'hui, moi, ce qui me fait lever tous les matins, c'est qu'on a envie que chaque Français puisse nommer un athlète paralympique qui a une chance de médaille aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Et donc, c'est pour cette raison qu'on met tous une énergie forte pour parler au maximum de cette compétition, de cette deuxième phase de l'épreuve totale des Jeux, en se disant que l'athlète, c'est la même ambition, la même émotion, la même perf. La seule différence, c'est que potentiellement, il a un fauteuil pour accompagner sa course. Potentiellement, il a des lames et une prothèse pour accompagner son saut. Mais sinon, tout le reste est exactement identique, y compris l'émotion qui se déroule dans le stade.
Est-ce que pour ces Jeux paralympiques, il y aura des nouvelles disciplines ?
Pour les Jeux paralympiques de 2024, on consolide les disciplines qui avaient été proposées pour Tokyo. Du coup, on verra la deuxième. C'est le même programme que pour Tokyo avec des aménagements de durée, mais on a également, comme les nouveaux sports qui étaient proposés à Tokyo, on a para-taekwondo et para-badminton. Et le fonctionnement est exactement le même qu'aux Jeux olympiques, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles disciplines qui sont proposées. Et après, ce sont les différents comités, comme le comité international olympique et le comité international paralympique, qui décident pour leurs disciplines quels seront les sports retenus pour chaque édition. Donc là, les discussions sont en cours sur les Jeux paralympiques de Los Angeles.
Et est-ce que vous avez quelques athlètes, quelques noms d'athlètes à nous présenter qui pourraient être intéressants de suivre à ces Jeux paralympiques ?
Forcément, on a toujours plein d'athlètes en tête pour suivre ces Jeux paralympiques. Alors, on va commencer par la paranatation. On va vraiment espérer que Hugo Didier et puis Alex Portal réalisent, on va dire, les performances à la hauteur aujourd'hui de leur médaille mondiale et qu'ils viennent chercher la plus belle couleur de médaille au jeu. On a également des espoirs comme Agathe Poli, et là, je suis toujours en paranatation, qu'on aimerait voir avec une très belle performance sur le 400 mètres nage libre. Et puis, si vous basculez un peu plus court terme, on peut déjà se projeter sur les championnats du monde de paranatation athlétisme qui va avoir lieu du 8 au 17 juillet 2023, où vous pourrez dès à présent venir voir Marcus Reim, qui va faire une tentative de record du monde en saut en longueur et qui est d'origine allemande, ou encore venir suivre les premiers championnats du monde qu'on va pouvoir suivre sur les télévisions françaises, et puis suivre le saut en longueur Dimitri Pavade, ou voir Alexandra Nouchier, qui est en ce moment une tête montante en athlétisme. Voilà, il y a pas mal de noms comme ça qu'on a envie de suivre, et de voir si, pareil, Charles-Antoine Kouakou viendra challenger sa médaille, puisqu'il a fait médaille d'or à Tokyo.
Les Jeux paralympiques auront lieu du 28 août au 8 septembre 2024, et les billets vont être à la vente à l'automne 2023.
Ça fait très plaisir de voir autant de cyclistes réunis à Bourg cet après-midi.
Là, on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 100-120 ans.
En reportage avec Radio B.
On part à la découverte d'une discipline du handisport, un reportage réalisé par des enfants de l'école du Pelou, encadré par notre technicien Jimmy.
Radio B, les bonnes ondes! Je m'appelle Margot.
Je m'appelle Chahid.
Je m'appelle Amel.
Je m'appelle Luna.
Je m'appelle Yanisha.
Je m'appelle Mathéo.
Je m'appelle Mathilde.
Bonjour à tous, nous sommes les enfants de l'école du Pelou.
Le mardi 4 avril, nous avons pu assister à la semaine de sensibilisation au sport paralympique.
Cet événement se déroule au Genève de Lille, à Bourg-en-Bresse.
Nous avons pu en apprendre plus sur les handisports. C'est les sports pratiqués par les personnes ayant un handicap.
Écoutons notre reportage.
Radio V et bonnes ondes.
Vous organisez quoi aujourd'hui ?
Alors, en fait, on a fait une animation sur toute la semaine concernant la semaine olympique et paralympique du 3 au 8 avril. Avec en thème principal l'inclusion, le but est de changer le regard et de sensibiliser le public au handicap. Alors, par exemple, pour la journée d'hier, lundi, on a proposé une activité cécifoot. Aujourd'hui, mardi, donc c'est une activité qui s'appelle la boccia. Jeudi, il y aura une activité fauteuil basket et vendredi, une activité goalball ou tourball.
Alors cet après-midi, c'est un atelier qui concerne un sport destiné aux handicapés moteurs et ça s'appelle la boccia.
Comment ça se joue la boccia ?
C'est de la pétanque assis.
C'est comme un jeu de pétanque, mais pour les handicapés, pour ceux qui ne peuvent pas beaucoup bouger leurs bras. Du coup, il y a quelque chose en bois qui descend, qui remonte, et du coup, quand tu lances la balle, c'est comme si tu le lançais avec ton bras.
On a une rampe de lancement qu'on peut monter ou descendre pour aller plus ou moins vite, et on doit arriver près du cochonnet.
C'est un peu comme la pétanque, mais pour des gens qui sont handicapés et qui ne peuvent pas forcément bien lancer des balles avec leurs bras. Alors, on utilise des petites rampes pour lancer les balles.
Qu'est-ce que vous en pensez de ce sport ?
C'est un sport qui permet de se concentrer et aussi d'être en équipe. C'est une stratégie à adopter pour savoir comment mieux placer la balle. C'est un sport vraiment ludique.
Je trouve que c'est un super sport parce que ça permet d'être précis, d'être calme, d'être concentré. Donc voilà, ça travaille beaucoup de capacités.
La boccia, bah c'est sympa, c'est un sport d'adresse, ça demande de bien se concentrer, il faut être calme. Bah, ça permet de jouer aussi avec des gens qui ne peuvent pas jouer debout, donc c'est super.
Bah, je trouve que c'est un sport très intéressant qui touche pas mal du public et c'est chouette de pouvoir le découvrir.
C'est quoi un sport paralympique ?
Eh bien, c'est des disciplines, c'est des sports pour les personnes handicapées aux Jeux Olympiques. Voilà, donc on a les sports des Jeux Olympiques et les Paralympiques, c'est des épreuves adaptées pour les gens handicapés, mais qui aussi s'entraînent beaucoup, ils ont leurs champions, et voilà. Les Jeux Olympiques vont être en juillet, je crois, juillet-août, et les Paralympiques commenceront au mois de septembre 2024.
Et les Jeux Olympiques ont été créés, vous le savez, par les Grecs, et en 1900, il y a des Anglais qui ont créé les Jeux Paralympiques destinés aux personnes en situation de handicap.
Qu'avez-vous appris sur les sports paralympiques ?
Que tout le monde pouvait jouer
handicapé ou pas?
Bah, les sports, c'est pas que pour les gens qui ne sont pas handicapés.
En fait, j'ai appris plein de choses. Avoir un handicap pour marcher ou pour voir, ça n'empêche pas des personnes pour être des champions olympiques.
Pour vous, pourquoi c'est important qu'il y ait des sports paralympiques?
Bah, pour que tout le monde puisse jouer.
Parce que sinon, c'est injuste et qu'il n'y a que ceux qui ne sont pas handicapés qui peuvent faire du sport.
Bah, parce que eux, ils ne peuvent pas faire tous les jeux, mais c'est pour ça qu'on les fait des jeux spéciaux pour eux.
Ah, c'est important parce que tout le monde a le droit de jouer à tous les sports, donc c'est normal que chacun puisse participer et pas regarder simplement. Donc tout le monde peut faire en fonction de ses capacités.
Parce que bah, ça permet aux enfants, donc comme vous par exemple, de pouvoir découvrir des sports qu'on ne fait pas forcément et aussi de sensibiliser tout type de personnes au handicap.
Pour que tout le monde puisse participer à n'importe quel sport et peut pratiquer n'importe quel sport.
C'est important que tout le monde puisse faire du sport et le sport qu'il préfère.
Ben, c'est important parce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui ont très envie d'essayer des sports. Et du coup, c'est pour donner la possibilité à ces personnes de participer aux Jeux Olympiques.
Pour que les personnes handicapées puissent quand même jouer à des jeux, quoi.
Qu'on soit handicapé ou pas, il faut inclure tout le monde. Donc c'est important, même si on a des problèmes, on est handicapé, on n'a pas une jambe, bah, tout le monde peut faire beaucoup de choses à sa manière, à sa façon.
Bah, pour que tous les enfants, même ceux qui sont handicapés, puissent faire des activités sportives aussi et qui sont adaptées à leurs problèmes de handicap. Principe d'égalité, tout le monde peut participer. Ah ben c'est important parce que ça permet aux gens ben, qui n'ont pas l'usage de leurs jambes ou de leurs bras comme nous, hein, nous on a la chance de pouvoir utiliser notre corps comme on veut, et c'est bien que dans la société, ben, ils aient aussi leurs épreuves et qu'ils puissent participer aux Jeux Olympiques à leur manière.
On a interviewé Océane Garnier, championne de France de boccia en 2017. Pouvez-vous vous présenter?
Alors, je m'appelle Océane Garnier, j'ai 21 ans. Je suis sportive, je pratique la boccia depuis 2008 et j'ai eu un titre de championne de France et là je suis vice-championne de France actuelle en boccia dans la catégorie BC4.
La boccia, ça consiste à quoi?
Alors c'est un sport qui ressemble à la pétanque, qui se joue en deux équipes, équipe rouge, équipe bleue. C'est soit individuel, soit en collectif, donc en équipe de deux. Le but du jeu, c'est de se rapprocher de la balle blanche, donc comme le cochon à la pétanque, que nous on appelle le jack. Et c'est un mélange donc de pétanque, d'échecs, parce que c'est beaucoup de stratégie, et de billard, parce qu'il faut, on joue avec la balle, on s'appuie dessus, il y a plusieurs effets qu'on peut lui donner, etc.
Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez remporté ces médailles?
Forcément de la joie. Après, il y a un peu d'accomplissement parce que c'est aussi du travail derrière, de l'entraînement, de l'investissement, du temps, enfin, etc. Donc c'est plutôt cool. Et puis après, ça nous arrive que des fois, on a des résultats qui sont moins bons, mais il y a quand même le travail derrière. Et puis quand on voit qu'on progresse, c'est aussi intéressant. Donc il y a aussi pas que les médailles qui comptent.
Combien de temps vous étiez-vous entraîné pour ça?
Moi, je m'entraîne toute l'année. Alors, pour l'instant, une fois par semaine, mais en fonction des objectifs que j'ai, je peux m'entraîner jusqu'à plus. Des entraînements de 1h30, 2h. Et après, ça peut être du spécifique sur un sujet ou un exercice en particulier. Parce que dès qu'on monte de niveau, ça demande plus d'exigences, logiquement.
Pour vous, pourquoi c'est important qu'il y ait des sports paralympiques ?
Le sport paralympique, c'est au final le parallèle du sport olympique. Ça permet déjà aux personnes en situation de handicap de pratiquer un sport et d'accéder au haut niveau. Et le jeu paralympique, c'est surtout un moyen de médiatiser et de permettre de faire connaître le handisport dans son pays, mais aussi au niveau mondial.
Pratiquez-vous d'autres sports ?
Oui, je fais du foot fauteuil, aussi à Bagé, et je fais du tennis de table. Donc, j'ai aussi des projets, surtout en tennis de table, haut niveau, donc c'est aussi pour ça que j'ai investi beaucoup de temps dans plusieurs disciplines.
Comment ces sports sont-ils adaptés au handisport ?
Bah, faut se dire qu'en handisport, tout est adaptable. C'est juste des fois des petites astuces ou des petites choses qui vont changer en fonction du handicap. Parce que le handisport, c'est, ça peut être des personnes en fauteuil comme moi, électrique, ça peut être des personnes en fauteuil manuel, ça peut être des gens qui ont des soucis à un bras ou plusieurs, des soucis dans les jambes, mais qui peuvent marcher. C'est aussi les personnes qui sont déficientes visuelles, donc qui ne voient pas très bien. C'est aussi les personnes sourdes qui n'entendent pas très bien. Et donc on adapte, par exemple... Pour les personnes sourdes, pour donner l'engagement, on ne va pas donner un coup de sifflet. On va trouver d'autres moyens visuels, comme pour les départs en natation. Ils vont avoir comme un feu pour les voitures, un feu tricolore qui va leur dire quand il faut partir. Ça peut être au basket, par exemple, ils vont utiliser des fauteuils faits pour pratiquer le basket. Mais pour autant, les paniers sont à la même hauteur. Pour le foot fauteuil, c'est un fauteuil qui est fait pour, donc qui est plus bas, avec un pare-choc tout autour. Du coup, on ne va pas toucher le ballon avec nos mains ou avec nos pieds, on va toucher avec le pare-choc, avec le fauteuil. Et donc, c'est des fauteuils qui sont très très puissants, qui vont très très vite, pour pouvoir taper le ballon avec et puis jouer. Donc, c'est un sport d'équipe, donc il y a les mêmes stratégies qu'au foot et ça ressemble beaucoup.
Radio V, bonnes ondes.
C'est déjà la fin de notre émission.
On espère qu'elle vous a plu.
Bonne fin de journée sur Radio B.
Les bonnes ondes.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Radio B, les bonnes ondes. Je m'appelle Margot.
Je m'appelle Chahid.
Je m'appelle Amel.
Je m'appelle Luna.
Je m'appelle Yanisha.
Je m'appelle Mathéo.
Je m'appelle Mathilde.
Merci encore aux enfants du Pelou pour leur reportage, encadré par notre technicien Jimmy. Donc, c'était donc la découverte d'une discipline du handisport.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Et pour Audrey et moi, c'était notre dernière émission.
Ce fut un plaisir de vous informer pendant ces quelques années. Merci à tous pour votre écoute.
Au revoir.
Je serai le président de tous les Français. 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 Tous les Français.
Mes chers compatriotes,
les Français. Je serai le président de tous les Français. De tous les Français.
Je mesure
les Français.
La difficulté. De la tâche qui nous attend.
Tous les Français. Tous les Français. Je veux tout un État. Je veux tous les Français. Je veux tout un État. Je veux un État.
Tain.
Vigoureux. Un État.
Tain.
Impartial. Un État.
Tain.
Vigoureux. Un État.
Tain.
Exigeant. Un État. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Un État. Tout.